Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec l'équipe du vendredi, Marion, Mohamed, Mathieu, Pierre et Patrick. Bonsoir à tous les cinq.
Bonsoir Mohamed.
Marion, hommage ce soir à Jean-Louis Trintignant.
Absolument, on a appris tout à l'heure la mort de Jean-Louis Trintignant, 91 ans, tant de films, de théâtre aussi, il était l'un des plus beaux visage du cinéma français, le plus tragique également quand il évoquait sa fille, Marie, dont nous allons parler tout à l'heure.
On y revient avec toute l'équipe et avec notre invité Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture. Mohamed, votre story ce soir.
Une trentaine d'heures pour un déplacement historique d'Emmanuel Macron en Ukraine. C'était hier soir, il nous a accordé 15 minutes d'entretien en tête-à-tête pour cet avou. Il revient sur le bilan de ce déplacement en Ukraine et sa semaine qu'il a passée entre la Roumanie, la Moldavie et l'Ukraine enfin.
À suivre dans votre story, Mohamed. Patrick, votre édito ce soir.
Je vais vous parler de l'affaire Damien Abad, ce ministre accusé à nouveau de violences sexuelles et de l'arbitrage difficile entre l'éthique de responsabilité et la présomption d'innocence.
Un sujet sur lequel on fait réagir notre invité Alain Duhamel, essayiste et journaliste politique à BFM TV. Bonsoir Alain.
Bonsoir.
Duhamel. Merci de votre présence ce soir, alors qu'à minuit s'arrête la campagne des législatives et évidemment votre regard aiguisé nous intéresse ce soir. Mathieu, dans le 5 sur 5.
Vous les avez remarqués ici, il faut le dire, et puis dans tous vos bureaux, ils sont en short, ils sont venus en t-shirt, ils sont venus en claquettes travailler. On va parler du droit du travail et de la canicule.
Pas Alain Duhamel, hein. Je vois ni short ni claquettes.
Toujours très élégant.
Pierre, votre œil ce soir.
Comme après 20h, on va beaucoup parler de la télé des années 70, moi je célébrerai le Sacha Show. Et donc, Sacha Distel.
Oui, la télé des années 70, et notamment les shows des Carpentier, Mariti et Gilbert Carpentier qui ont marqué l'histoire de la télévision. Eh bien, une fine équipe leur rend hommage samedi prochain sur France 2. Pierre Palmade, Muriel Robin, François Berléand, entre autres, trois parmi les 45 artistes qui seront réunis pour cette soirée exceptionnelle. Eh bien, ils dînent avec nous ce soir, tous les droits. Rendez-vous après 20h autour du dîner, préparé ce soir comme tous les soirs de la semaine par Rebecca Beaufour, chef propriétaire du Dante, rue du Paradis à Paris. Des ravioles pour terminer cette semaine.
C'est ça, des ravioles pommes de terre, pâte à negra et piment d'Espelette qui sont servis avec un petit beurre noisette qu'on peut retrouver actuellement au Dante, rue du Paradis.
Merci chef pour cette semaine. À tout à l'heure pour le dîner. Tout de suite, l'édito de Patrick Cohen. Le ministre des Solidarités, Damien Abad, visé par une nouvelle accusation de violence sexuelle. Comment arbitrer entre responsabilité politique et respect de la présomption d'innocence?
D'abord, en distinguant les deux aspects, on ne peut pas, on ne devrait pas se contenter d'en appeler au juge, comme le fait le gouvernement, et de balayer les enquêtes de presse, ni de tenir pour négligeable la marche de la justice, comme le font ses opposants. Sur le plan politique, d'abord, la question du maintien de Damien Abad à son poste se trouve légitimement posée par des accusations étayées et une enquête journalistique sérieuse. Mediapart ne s'est pas contenté de recueillir la parole d'une seule accusatrice, toujours sujette à caution. Le site d'information a recueilli les récits circonstanciés de trois femmes qui ne se connaissaient pas, et dans le dernier cas, huit témoignages, non pas de l'agression, mais de la parole portée par cette femme depuis plusieurs années à ses parents, son conjoint, son médecin, ses proches, avec des SMS qui ont été consultés. Tout cela ne forme pas une vérité judiciaire, cela ne dispense pas d'une enquête et du travail des juges indispensable. Ça n'en fait pas un coupable, mais il est problématique d'en faire encore un ministre, question d'éthique et de responsabilité.
Le gouvernement répond en invitant cette femme à saisir la justice et à porter plainte.
Et certaines militantes féministes ont expliqué en retour que ça ne servait à rien ou à pas grand-chose.
En fait, Elisabeth Borne, elle ne dit pas seulement aux femmes d'aller porter plainte. Elle dit aux femmes d'aller se faire classer sans suite. Parce que c'est ça que ça veut dire aujourd'hui. Quand vous portez plainte en France pour des faits de violence sexuelle, par exemple pour harcèlement sexuel, dans 94% des cas, 94, donc c'est pas une minorité, c'est 94% des cas, la justice va classer votre plainte sans suite. Lorsque vous portez plainte pour des faits de viol, c'est donc un crime, dans 70% des cas, la justice classe sans suite. Et Elisabeth Borne, elle connaît ces chiffres. Donc quand elle regarde cette militante et qu'elle dit en fait à toutes les femmes de ce pays victimes de violence, allez porter plainte, elle leur dit, allez vous faire classer sans suite.
70% des plaintes pour viol classées sans suite, est-ce que c'est vrai ?
Oui, c'est l'ordre de grandeur et juste pour être précis, sur les 39 000 personnes impliquées dans les affaires de viol ou d'agression sexuelle en 2020, plus de 23 000 ont bénéficié d'un classement sans suite, soit 61%. C'est beaucoup, c'est choquant, ce n'est pas une singularité de ce type d'affaires. Toutes infractions confondues, la moyenne des classements s'établit à près de 70%. Le plus souvent, les parquets considèrent que les affaires d'agression sexuelle qui leur sont soumises sont non poursuivables.
Pour quelle raison ?
Pas de preuves tangibles, auteur mis hors de cause, manque d'éléments matériels ou de témoignages, avec des questions ou des doutes sur le consentement de la plaignante, notamment dans les affaires conjugales, puisque 38% des femmes qui déposent plainte accusent leur conjoint ou leur ex-conjoint. Ajoutons que plus de la moitié, 55% des victimes présumées de violences sexuelles sont des mineurs, la plupart des enfants de moins de 15 ans, agressés ou abusés dans un cadre familial, parfois par d'autres mineurs, c'est vrai une fois sur trois. On voit là l'importance, la surreprésentation de la sphère familiale dans ces affaires de violences sexuelles.
On dit aussi que seulement 1% des viols et tentatives mènent à une condamnation.
Oui, alors ça part d'un chiffre qui ne vient pas des forces de l'ordre ou de la justice, mais de l'INSEE qui a mené pendant plusieurs années une enquête de victimisation, une sorte de vaste sondage d'où il ressort que 0,4% des femmes majeures déclarent avoir été victimes de viols ou de tentatives sur une année, soit 0,4%, ça fait 94 000 et environ donc 80 fois plus que de condamnations pénales. Donc on n'est pas très loin du 1%, mais c'est un rapprochement d'autant plus discutable que dans l'enquête de l'INSEE, 12% des victimes seulement, ou des présumées victimes, disent avoir déposé plainte. Si la justice doit évoluer ou se réformer pour mieux traiter les violences sexuelles et mieux entendre la parole des femmes, ce n'est sûrement pas en les dissuadant de porter plainte, comme on vient de l'entendre, qu'on va régler le problème. En 2020, 4558 hommes et 41 femmes ont été condamnés pour violences sexuelles par les tribunaux et les cours d'assises, et plus de 11 000 ont subi des poursuites. Le parquet a engagé des poursuites pour 11 000 personnes. C'est sans doute insuffisant, mais ce n'est pas rien. Je termine ce papier où il y a eu beaucoup de chiffres, et je m'en excuse, par une statistique incontestable. 100% des affaires pour lesquelles il n'y a pas de plainte ne seront jamais jugées.
Ces accusations d'agression sexuelle, Patrick l'a rappelé à l'encontre du ministre Damien Abad, ça n'en fait pas un coupable. Mais il est problématique, a dit Patrick, d'en faire encore un ministre. Vous êtes d'accord avec ce constat ?
Je suis assez d'accord. Il a obtenu, malgré les accusations dont il est l'objet, un score très encourageant au premier tour dans sa circonscription. S'il est élu dimanche, je trouve qu'il a le droit d'être député, mais je trouve qu'il devrait de lui-même renoncer à siéger au Conseil des ministres sans attendre qu'on le lui demande.
Comment expliquez-vous qu'Elisabeth Borne et le gouvernement dans son ensemble se refusent à lui demander de démissionner ?
Sur le fond, c'est bien, c'est toujours la querelle sur la présomption d'innocence contre eux, etc. C'est toujours cet
argument-là. Et c'est la difficulté de concilier l'exigence morale et la présomption d'innocence.
Et c'est vrai que c'est compliqué. Et puis, il y a la personnalité de Damien Abad lui-même aussi qui complique les choses quand même. Franchement, je trouve que quand on fait l'objet d'accusations de ce genre, même si c'est injuste, que j'ignore évidemment totalement, mais même si c'est injuste, il vaut mieux ne pas siéger au gouvernement. D'ailleurs, s'il reste au gouvernement, qu'est-ce qui se passera concrètement ? Pendant les questions au gouvernement, par exemple, dès qu'il devra même intervenir sur un sujet de sa compétence, il va y avoir un théâtre épouvantable. Et donc, je pense que ça n'est pas l'intérêt du gouvernement, mais de son image, et que ça n'est probablement pas l'intérêt non plus de Damien Abad, parce que, franchement, devenir l'objet de la vindicte numéro un dans une assemblée, surtout avec les oppositions qui iront et qui ne seront pas du genre à le ménager, ça serait déjà une punition.
Amini, ce soir, la campagne électorale sera terminée. Dimanche, ce sera la fin de ce feuilleton, une présidentielle et une législative, chacune en deux tours. Mais certains, comme Jean-Luc Mélenchon, se projettent lundi matin, le téléphone bien en vue.
C'est où lundi matin ?
Eh bien, je serai chez moi, voulez-vous que je sois. Bah, j'attendrai le coup de téléphone du président de la République pour me demander de former le gouvernement.
Mais vous y croyez vraiment ?
Mais pourquoi n'y croirais-je pas ?
Jean-Luc Mélenchon risque-t-il d'attendre longtemps avant que son téléphone ne sonne ?
Je pense. Comme je l'ai dit, je le vois à Matignon le jour où Elisabeth Borne aura décidé de l'inviter à déjeuner. Ou le jour où il y aura une réunion, de, comme ça arrive régulièrement d'ailleurs, des responsables, des responsables de tous les partis. Mmh. Bon, pour le reste, il a réussi un coup de bluff génial au service d'un programme contestable, mais ça c'est autre chose.
Qui explique une partie du sort de la NUP dimanche dernier.
Oui, une grande partie. Mmh. Il a ressuscité une union de la gauche alors que tout le monde depuis 10 ans dit que la France est de plus en plus à droite. Il a des promesses de siège impressionnantes quand même, parce que il est possible que dimanche soir, il y ait 200 NUPES, je ne dis pas qu'on y arrivera, mais a priori, c'est plutôt entre 150 et 200, donc c'est absolument considérable. Et c'est vraiment lui, d'ailleurs c'est sans précédent dans l'histoire des Républiques, il est arrivé par un trade d'intuition, d'orgueil aussi, parce qu'il faut un orgueil phénoménal pour faire ça. En plus, en surmontant toutes ses propres contradictions, puisqu'il est complètement contre la personnalisation du pouvoir, et il en donne là un récital absolu. Bon, mais il faut reconnaître, il a un énorme talent et un exécrable programme.
Si vous ne tranchez pas net, ça va être la pagaille pendant des mois. Voilà la prédiction de Jean-Luc Mélenchon. Lui aussi joue sa version du « c'est moi ou le chaos ». Qu'on a beaucoup entendu du côté de...
Oui, mais alors, là, il est possible, la majorité. Il est possible qu'il ait raison. C'est-à-dire qu'il est possible que, quel que soit le résultat de dimanche soir, quel que soit l'équilibre politique, probablement sur la marge, qui en sortira, je pense que ce quinquennat, le quinquennat qui commence, va être un des plus turbulents que nous aurons connus.
À l'Assemblée ou ailleurs ? Ou en dehors de l'hémicycle, ou les deux ?
À l'Assemblée, forcément, ailleurs, probablement. Et je dirais, quel que soit le cas de figure de dimanche soir, tel qu'est le rapport des forces, bien sûr. Hein, c'est-à-dire, avec une opposition de gauche qui sera de toute façon très puissante, une opposition d'extrême droite qui est, en fait, en voie, le vrai vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle, bon, et un bloc central... quel que soit, hein, que ce soit cohabitation, si par hypothèse à laquelle je ne crois pas du tout, Jean-Luc Mélenchon l'emportait, que ce soit majorité absolue parce que le gouvernement sera dans une période de crise économique grave, de crise internationale grave, de crise alimentaire extrêmement préoccupante, il a besoin de faire des réformes qui sont attendues en éducation, en santé, en environnement, etc. Et il a en face de lui des oppositions puissantes comme on n'en a pas connu depuis extrêmement longtemps sous la Ve République, et avec en plus des instruments parlementaires beaucoup plus faibles qu'avant pour y tenir
notamment
tête.
Le fameux 49-3 qu'avait beaucoup utilisé Michel Rocard lorsqu'il s'était retrouvé dans cette situation-là. Oui. Et ça n'est plus possible maintenant, ampleur.
C'est possible pour la loi de finances, pour la loi sécurité sociale, et une fois par session... Michel Rocard, en 3 ans, c'était pratiquement, je crois, 24 fois.
Le risque, c'est la paralysie ou la lenteur de la prise des décisions ?
Alors, le risque, c'est que les réformes soient extrêmement difficiles à faire au moment où personne ne conteste qu'il faille des réformes sur la santé. Personne ne conteste qu'il faille des réformes sur l'éducation. Et personne ne conteste le fait qu'il faut donner à la lutte en faveur de l'environnement des moyens dont elle est dépourvu aujourd'hui. Bon, donc c'est indispensable et ça sera très difficile. Alors, ça n'est pas la même chose si Emmanuel Macron conserve d'extrême justesse une majorité absolue à l'Assemblée ou si c'est une majorité relative. Bien sûr, si c'est une majorité absolue, il aura quand même des moyens supplémentaires. Si c'est une majorité relative, c'est plutôt le cas de figure, même si, comme il y a presque 20% des gens qui se déterminent dans les trois derniers jours, ça peut encore bouger.
Et bon. Que chaque pourcent de voix peut faire bouger une vingtaine de députés.
Absolument, en gros. Absolument.
Donc, oui,
absolument.
C'est dans cet ordre-là.
Ouais. Et, alors, donc, et si c'est au contraire majorité donc relative, donc pas de majorité absolue, bon, ça s'est passé au tout début de la Ve République, quand vous n'étiez pas né, entre le général de Gaulle et Michel Debré. Ça s'est passé, là, vous suiviez ça de très près sûrement, quand c'était Michel Rocard. Mais ce qu'on n'a pas connu, c'est une majorité relative avec un déficit de 30 ou 40 sièges. C'est imaginable. Je ne dis pas que c'est le plus probable, mais c'est imaginable. Parce qu'au fond, quand on est en majorité relative, il faut trouver des suffrages qui ne viennent pas de votre propre camp, de toute façon. Et là, il y a deux hypothèses. Il y a, si j'ose dire, la pêche à la ligne et la pêche en haute mer. La pêche à la ligne, c'est s'il manque une dizaine de votes. Alors là, entre les non-inscrits, entre des dissidents, des ultramarins, je ne dis pas les ultramarins, non, mais des ultramarins.
On peut s'en sortir.
Et puis des gens qui sont démodérés, soit de gauche, soit de droite, selon les sujets, on peut y arriver. S'il manque 30 ou 40, c'est autre chose. Il faut vraiment des négociations. Je ne dis pas une alliance, parce que je crois qu'elle est très difficile en ce moment, mais il faut des négociations sujet par sujet. Je veux dire, ça cesse.
Qui serait la première fois qu'une assemblée de la Ve République aurait le fonctionnement de la 4e.
Absolument, de la 4e et de la 3e, qui ont toujours fonctionné comme ça.
Avec l'instabilité gouvernementale qu'on sait.
Dramatique. Et avec des réformes qu'il était difficile de faire passer.
Et dans ces cas-là, est-ce qu'il faut écarter l'idée d'une dissolution?
Non, bien sûr que non. Moi, je suis persuadé que s'il y a une majorité relative, il y aura une dissolution dans un an ou dans deux ans. Je suis absolument persuadé.
Mais il y aura quand même deux années de tempête.
Non, puis surtout, les convulsions ne seront pas simplement au Parlement, même si le Parlement va retrouver, ce qui est très bien, une place plus importante. Mais évidemment, quand on voit qu'à la CFDT sur les retraites, par exemple, la direction s'est fait mettre en minorité par ses militants qui trouvaient que ça n'était pas assez dur, bon, imaginez ce qui va se passer.
En attendant la dissolution, les yeux sont maintenant tournés vers les Républicains qui pourraient servir de force d'appoint en cas de majorité relative. Et ce matin, Karl Olive de La République En Marche se voulait très pragmatique.
Le camp d'Emmanuel Macron n'a qu'une majorité relative. Est-ce qu'il faut s'allier à la droite classique dans le futur? C'est une question.
Oui, enfin, les Républicains, c'est pas la vaillole du singe. Il n'y a aucune difficulté à pouvoir travailler le cas échéant sur un contrat républicain.
Un contrat de gouvernement, c'est ce que vous souhaitez?
Je dis un contrat de gouvernement de temps à autre. C'est le grand dépassement. La France, ce n'est pas la gauche, la France, ce n'est pas la droite. Soyons un peu plus pragmatiques et de bon sens.
Solliciter les Républicains, c'est faire pencher un peu plus le gouvernement à droite.
Oui. Alors, si on est dans l'hypothèse où c'est une majorité relative étroite, donc il manque 10-15 voix, selon les sujets, elles peuvent être trouver à droite ou à gauche. Par exemple, en matière culturelle ou sociétale, ça peut être à gauche. Je prends un exemple. Si il y a une loi que je souhaite personnellement sur la fin de vie, l'appoint peut venir de la gauche. Bon, s'il y a une loi sur les retraites, l'appoint viendra forcément de la droite.
Et si on penche un peu plus à droite, c'est compliqué avec une Premier ministre qui vient quand même de la gauche?
Alors, c'est compliqué pour elle. Mais ce qui va être le plus compliqué pour elle, ça va être l'Assemblée nationale, qui va quand même être un théâtre particulièrement convulsif.
Donc elle est en danger.
Donc elle est en difficulté, évidemment.
Si je vous dis que son parti est le seul à avoir progressé aux législatives par rapport à celle d'il y a 5 ans, et pourtant Marine Le Pen, elle, ne rêve pas d'être première ministre, simplement de pouvoir former un groupe à l'Assemblée. Et ce matin, elle était encore en campagne sur le marché des Nains Beaumont.
La réalité, c'est qu'il est absolument fondamental que le Rassemblement national ait un groupe qui soit le plus puissant possible à l'Assemblée nationale. Je crains toujours l'abstention et je viens dire aux Français, et notamment d'ailleurs à mes électeurs de la présidentielle, qu'il faut qu'ils nous aident à les défendre, il faut qu'ils nous aident à les aider. Et pour pouvoir les aider, il faut qu'on ait, encore une fois, le plus grand nombre de députés Rassemblement National. Je sais qu'il y a des millions de Français qui n'ont pas du tout envie d'avoir le choix entre Emmanuel Macron, qui a fait une politique toxique pendant 5 ans, et Jean-Luc Mélenchon, qui est la figure de l'extrême-gauche la plus sectaire, la plus violente, la plus brutale, la plus anti-républicaine. Eh bien, ces électeurs-là doivent choisir, ils ont la possibilité de le faire dans 208 circonscriptions, le candidat du Rassemblement National.
En ayant fait peu campagne, est-ce que ce n'est pas quand même l'une des grandes gagnantes de cette législature?
C'est la gagnante invisible.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est elle qui a gagné les voix, et c'est elle dont on a parlé le moins. C'est d'ailleurs elle qui est entrée en campagne le plus tard, si on laisse Emmanuel Macron de côté, parce qu'il n'est jamais entré, en fait. Mais elle est entrée tard, elle a été peu visible volontairement, et elle a gagné de façon qui est spectaculaire. Et ce qui l'intéresse, c'est très clair... C'est la prochaine présidence. Elle pense qu'à chaque fois, elle se rapproche un peu plus, qu'à chaque fois, ce qui a été quand même très frappant cette fois-ci, et qui va l'être dimanche, ce qu'on appelait le Front républicain, c'est pour les livres d'histoire, et que ça n'a pas... ça craquelle de partout, et elle peut espérer être présidente la prochaine fois.
Mais avec ses législatives, elle peut aussi espérer un peu renflouer les caisses, non ?
Ah oui, non, bah bien sûr, ça c'est mécanique de toute façon. Hein, ça dépend du nombre d'électeurs. Elle aura beaucoup d'électeurs, elle aura de l'argent. Cela dit, elle est endettée pour un bon moment.
Oui, 24 millions d'euros.
Et pas seulement auprès des Russes.
Oui, Patrick. Dont le fameux emprunt russe, effectivement.
Non, juste un mot, après vous avoir entendu sur le paradoxe de ce second tour. Plus la NUPES ou la NUPES obtient de voix dimanche et plus elle obtient de députés, sans atteindre la majorité absolue, mais plus elle aura de députés et plus le gouvernement sera tenté de gouverner à droite.
Mais bien sûr, la NUPES repousse la majorité et le gouvernement et Emmanuel Macron vers la droite, c'est un fait. Alors, ça dépend des domaines, hein. On ne peut pas dire ça en politique internationale, par exemple, mais en politique intérieure, c'est à peu près inévitable. Ce qui fait que quand on dit depuis 10 ans la France est de plus en plus à droite, c'est vrai si on regarde les résultats de Marine Le Pen, c'est faux si on regarde les résultats de Jean-Luc Mélenchon. On est quand même, faut bien le dire, hein. Ça ne se dit pas, mais je crois que c'est vrai. Politiquement, on est un pays extrêmement subtil, mais complètement tordu.
Voilà, résultat de ces élections avec des électeurs subtils, mais tordus. Dimanche, vous serez mobilisés, j'imagine, sur BFM TV. On vous y retrouve tous les jours de la semaine, sauf le vendredi. Vous nous faites le plaisir de temps en temps de venir sur le plateau de C'est à vous. Mais aussi, on vous écoute en podcast dans Les Conquérants. Vous racontez avec Maxime Switek les coulisses des campagnes électorales présidentielles. Vous restez avec nous, on continue à commenter avec vous l'actualité. C'est l'heure de la story de Mohamed Bouafsi. Mohamed, vous étiez donc hier en Ukraine avec Emmanuel Macron. Dans le train qui vous ramenait en Pologne, le président de la République vous a accordé une interview.
Oui, il était plus de 23 heures hier soir quand Emmanuel Macron nous a reçus, encore émus par les images qu'il a vues à Irpin, dans la banlieue de Kiev. Dans le wagon qui lui était réservé, le président s'est confié pendant une vingtaine de minutes, notamment sur les difficultés pour lui d'organiser ce déplacement avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le président du Conseil italien Mario Draghi.
Je n'y allais pas parce que je voulais construire les conditions aussi de tenir l'unité européenne. Et c'est un défi, parce que à mesure que la guerre dure, que ses conséquences se font ressentir sur nos vies, nos entreprises, l'inflation, la montée des prix de l'énergie comme des céréales et de l'alimentation, tout ça va mécaniquement nous diviser. Ce que j'ai voulu faire ces dernières semaines, c'est, sachant qu'il y avait un Conseil européen la semaine prochaine sur ce sujet, avoir un dialogue nourri avec mes collègues pour avoir... trois pays fondateurs qui sont parmi les trois plus importants de l'Union européenne, avec des sensibilités historiquement différentes sur ce sujet, et un pays de l'Est, pour ne pas qu'il y ait une division Est-Ouest, qui a été sous le joug de l'Union soviétique et qui est un des voisins du conflit ukrainien.
Ce midi, la Commission européenne a donné un avis favorable au statut de candidat à l'Union européenne de l'Ukraine et de la Moldavie, une décision qui conforte la position française.
Le fait que nous soyons allés tous les quatre pour dire nous soutenons l'Ukraine, pour réaffirmer des soutiens multiples, et pour dire nous sommes favorables au statut immédiat de candidat à l'adhésion, et à une feuille de route et des conditions pour ouvrir ensuite les différents chantiers, c'est de nature à construire le consensus autour de la table. La France souvent est force de proposition, mais on doit construire des alliances respectueuses des 27, mais des alliances. Et donc le Conseil de la semaine prochaine sera très important. On fera tout pour essayer de convaincre et d'avoir une unanimité. Et s'il faut prendre un peu plus de temps pour l'avoir, on le fera.
Pour Emmanuel Macron, venir en Ukraine accompagné de 3 chefs d'État influents de l'Europe, c'était aussi un message clair envoyé à Vladimir Poutine.
Il veut le démantèlement de l'Union européenne et il ne croit pas dans le modèle de ce qu'on appelle les démocraties libérales. Libérales au sens politique du terme, c'est-à-dire des démocraties où il y a des élections qui sont libres, qui ne sont pas truquées, où il y a une justice indépendante, une presse indépendante, des universités avec une liberté académique et une séparation des pouvoirs et des jeux de contre-pouvoirs. C'est tout ça. Lui, il est contre ce modèle. Et il l'a dit très clairement. Et il aide d'ailleurs partout, sur le continent européen ou ailleurs, ceux qui poussent les démocraties libérales, l'illibéralisme politique. Et donc, c'est un message très fort, en effet, qui lui est envoyé, qui est assumé, qui est « nous sommes là, nous tenons, nous sommes unis ». Et nous tenons aussi à notre continent.
L'Ukraine est l'un des plus grands producteurs de blé et de céréales dans le monde. Le président sénégalais l'a confié. La famine va toucher l'Afrique. 100 millions de personnes seraient dans l'obligation de fuir en raison de l'insécurité alimentaire. Pour le président français, c'est désormais un risque mondial.
La guerre a fait que les volumes qui d'habitude étaient envoyés vers d'autres pays, le Liban, l'Égypte, et bien d'autres pays du Caucase, du Proche et Moyen-Orient ou de l'Afrique, ont été bloqués. Et donc à très court terme, ce qu'on doit essayer de faire, c'est débloquer ce grain. Il y a une première voie par Odessa et la mer Noire. Cette voie est très compliquée, parce qu'elle suppose qu'on sache trouver un cadre de confiance entre les Ukrainiens et les Russes. Le seul cadre qui existe, c'est les Nations Unies et une résolution. Les Russes la bloquent. Il y a une autre voie qui est de passer par la Biélorussie pour rejoindre la mer Baltique. Cette voie est possible, mais elle est compliquée. Et la Biélorussie a commencé à faire du chantage pour lever des sanctions. Et ça crée beaucoup de tensions géopolitiques, mais on la regarde. Il y a une troisième voie qui est de passer par la Roumanie, par les chemins de fer et par le Danube. La difficulté, nous sommes dans un train, vous le voyez, qui est aux normes russes. La taille des rails n'est pas la même, les mécanismes ne sont pas les mêmes. Et donc l'interopérabilité n'est pas évidente.
La guerre en Ukraine a aussi des conséquences. En France, le gouvernement a dû mettre en place un bouclier énergétique. L'objectif est clair pour Emmanuel Macron, faire face à l'inflation qui va toucher les foyers français.
Nous, on va devoir resserrer les instruments pour les concentrer par exemple sur les gros rouleurs, demander aux entreprises de mieux accompagner celles et ceux qui en ont le plus besoin, protéger les ménages, je dirais les plus modestes, c'est-à-dire les classes moyennes et populaires, les gens qui travaillent, qui ont besoin de leur voiture, de chauffer, ou les classes les plus populaires qui ont un travail en temps partiel ou qui sont au chômage. Mais on ne pourra plus protéger tout le monde dans la durée. Et la bonne réponse, c'est en masse de permettre à nos compatriotes de moins dépendre de ces énergies que sont le gaz et le pétrole. Et donc, il faut investir encore plus massivement sur la rénovation thermique des bâtiments, accompagner pour acheter des nouveaux véhicules qui permettent de moins dépenser, parce que 1 euro de vos impôts est mieux utilisé à faire ça qu'en fait à financer un bouclier qui me permet d'absorber la taxe de l'extérieur sur le pétrole russe ou le gaz russe.
Alain Duhamel, on vient de parler du blé. C'était important d'aller en Ukraine afin de trouver des solutions sur la crise des céréales. C'est encore un aspect de cette guerre qui nous touche, qui va encore plus nous toucher. On ne mesure pas assez la crise qui arrive pour nous, en tout cas économiquement, et surtout la crise humanitaire en Afrique avec les famines.
Mais il va y avoir les deux. C'est-à-dire qu'il va y avoir une crise économique qui est liée au prix de l'énergie, mais qui est directement la conséquence de ce qui se passe en Ukraine et qui touche en premier lieu, les Européens. Et puis, en plus de la crise à proprement parler économique, pour laquelle il va falloir que les Européens se serrent les coudes et qu'ils sachent, au niveau à Bruxelles, prendre des bonnes décisions, comme ça a d'ailleurs été plutôt le cas depuis 5 ou 6 ans, il va y avoir, ce qui est pire, une crise alimentaire absolument terrible et qui met en jeu la vie, la survie de populations tout autour du bassin méditerranéen et en Afrique. Et la seule solution passe évidemment par les Nations Unies, puisqu'autrement, jamais Poutine n'accepterait quelque chose d'autre. Ça passe par les Nations Unies, mais comme on l'a vu, les voies sont très difficiles. Donc, de toute façon, il y aura forcément une grande partie des récoltes d'Ukraine, par exemple, aussi bien blé, maïs, tournesol, enfin tout ce qu'on veut, qui manqueront. Et c'est ce qui fait la différence. Et au moment où il y a le plus de réchauffement climatique, donc des conséquences désastreuses pour les cultures, notamment en Afrique, il y aura en plus un déficit énorme des aliments de base dont ils ont besoin. Les seules solutions dans ces cas-là, ce sont vraiment des solutions collectives et des solutions de guerre. Il va y avoir une guerre économique, il y a une guerre militaire, il va y avoir une guerre économique et malheureusement, il va y avoir une guerre alimentaire. Ce n'est pas très gai comme propos, mais il faut prendre des initiatives. Je ne sais pas si ce que Emmanuel Macron esquissé peut fonctionner d'une manière ou d'une autre, mais si on ne trouve pas quelque chose qui fonctionne et qui ait un consensus au niveau des Nations Unies, on va vers une catastrophe.
Merci beaucoup, Mohamed. Il occupait une place à part dans le cinéma français, une anti-vedette au destin international dès 1956 et le duo mythique avec Brigitte Bardot et dans « Et Dieu créa la femme ». Mais il a toujours cultivé le retranchement, l'humilité, au point en 1969 de ne pas se présenter au Palais des Festivals pour venir récupérer son prix d'interprétation, préférant regarder la cérémonie devant sa télévision.
Prix d'interprétation masculine. Jean-Louis Trintignant dans Z. Performance de Trintignant dans Z. Ajoute un nouveau fleuron à Trintignant, mais aussi au film.
Il est pas là.
Il est absent.
J'y étais allé sérieusement. Et puis j'étais reparti dans mon midi. Et j'ai appris à la télé, je regardais la télé, je regardais le résultat de Cannes, et j'ai appris que j'avais le prix. Mais je ne regrette pas, hein, c'est pas grave.
Jean-Louis Trintignant est mort paisiblement de vieillesse ce matin chez lui dans le Gard, entouré de ses proches, a précisé son épouse dans un communiqué transmis par son agent. Bonsoir Jacques Lang.
Bonsoir.
Président de l'Institut du Monde Arabe, ancien ministre de la Culture, merci de votre présence ce soir pour parler des 40 ans de la fête de la musique, mais d'abord pour évoquer le souvenir de Jean-Louis Trintignant qui, pour le journaliste du Monde, Jean-Luc Douin, fut de ces acteurs qui, comme Michel Piccoli, prennent de l'épaisseur avec l'âge. Vous partagez ce sentiment ?
L'épaisseur était là dès les premiers moments, pour Michel Piccoli comme pour Trintignant. Il y avait en lui une ferveur, une force, une retenue, une intelligence surtout. Une intelligence des textes, une intelligence de la poésie, une intelligence du corps. Bon, Trintignant était parfait d'un bout à l'autre. Et je dirais qu'il a traversé le cinéma français. Il a été, au fond, à travers lui, on peut raconter l'histoire du cinéma français depuis 60 ans, 70 ans.
Jean-Louis Trintignant, qui ne voulait pas devenir comédien quand il arrive à Paris à 20 ans, après avoir entamé des études de droit, c'est pour s'inscrire à l'IDEC, l'école de cinéma. Il veut être metteur en scène, d'une timidité maladive. C'est le théâtre qui va l'aider à s'en guérir, un homme qui avait accepté de parler de lui à sa manière dans cet autoportrait diffusé en 1971.
Trintignant Jean-Louis Xavier, né le 11 décembre 1930 à Piolenc, Vaucluse. Artiste dramatique, marié, bon père, bon mari, bon pied, bon œil. Bon œil, pas terrible. Une centaine d'émissions de radio, une dizaine d'émissions de télévision, une quarantaine de films, une quarantaine de pièces de théâtre, la quarantaine, parle l'italien, l'anglais très mal, casier judiciaire vierge, malgré les apparences.
Jean-Louis est quelqu'un de très fascinant parce que difficile à comprendre. Il est mystérieux, même après avoir vécu des années avec lui. Il garde un certain mystère pour moi.
C'est ce que nous confia Nadine Trintignant en octobre dernier. Ce mystère, c'est ce qu'on retiendra aussi de Jean-Louis Trintignant.
Oui, parce qu'il était tout en retenue, en timidité, comme vous l'avez dit, totalement dédié à ses interprétations, à ses personnages. Bon, en même temps, il avait aussi une conscience civique. Je ne peux pas oublier qu'il a été à nos côtés aux côtés de François Mitterrand en 1981. C'est un homme qui, sur le plan civique, était engagé sur certains points et a mené des combats. Par exemple, bien avant, au moment de la guerre d'Algérie. Je crois même qu'il a risqué la prison, parce qu'il était, j'allais dire, l'insoumis avant l'heure.
Oui, oui,
il refusait.
Raison,
pardon.
Vous avez raison, il était insoumis. Il n'a pas fait l'Algérie parce qu'il a fait la une des journaux en refusant de s'engager contre le FLN et la, dans la guerre d'indépendance. Il a été envoyé, il a fait son service en Allemagne et il l'a payé rudement. L'armée lui a fait payer ses prises de position. Il est revenu d'ailleurs assez cassé et silencieux pendant pas mal de temps.
Patrick, vous avez eu l'occasion de rencontrer et de vous entretenir trois fois de suite avec Jean-Louis Trintignant. Quels souvenirs vous gardez de ces rencontres ?
Immense souvenir, la première fois notamment d'un petit garçon admiratif qui a grandi avec le cinéma de Trintignant, parce que dans les années 70 et 80, je fréquentais beaucoup les salles et lui tournait comme une brute, 3, 4, 5 films par an, toujours le même et à chaque fois différent, comme Michel Piccoli, souvent des personnages introvertis, solidaires, droits, un peu protestant, comme lui. Dans Vivement Dimanche, Truffaut lui fait dire devant Fanny Ardant « Je ne me mets jamais en colère, je déteste la colère ». C'est lui qui parlait, c'était Trintignant. Il était l'homme des colères froides et d'une immense bienveillance qu'on entendait dans sa voix. Il avait la voix la plus belle du cinéma français, une voix timbrée, chaude, caressante, mais qui peut être cassante, une voix de taiseux, avec un phrasé impeccable et un reste ou une pointe d'accent du Midi. Trintignant était un timide, il portait des masques, comme tous les grands acteurs. Souvenir d'Enki Bilal, qui vient de lui proposer de tourner Bunker Palace Hotel. Il vient le voir dans le Gard. « Monsieur Trintignant, il faudra que vous rasiez le crâne pour le rôle ». Réponse de Trintignant avec son grand sourire gourmand. « J'en rêve depuis que je suis enfant, depuis que je suis tout petit ». Incroyable humilité de Trintignant à mon micro à France Inter. Question « Quand êtes-vous devenu un bon acteur ?» Réponse « Je ne le suis pas encore devenu, mais ça va venir. Je vais devenir un bon acteur ». Il avait 80 ans à ce moment-là. Je lui parle de tous ces films qui ont tout ébloui l'adolescent que j'étais. On les a un peu oubliés aujourd'hui quand il se métamorphosait dans chacun de ses rôles. L'inspecteur Carella dans Sans mobile apparent de Labro, Émile Buisson dans Flick Story de Deray, parce qu'il a joué aussi des fous et des méchants, un ambitieux manipulé par Jean-Pierre Cassel dans Le mouton enragé de Michel Deville, un banquier grugé par Claude Brasseur dans L'argent des autres de Challonge. Presque à chaque fois, il m'arrête hors micro pour me dire « C'est bien ça, ce dont vous parlez ?» Bah oui, je lui dis « C'est un bon film, je ne l'ai pas vu ». Parce que j'avais pas le temps de les voir. C'était l'époque où Trintignant enchaînait les tournages. Il s'arrêtait de tourner un film le samedi, puis il en reprenait un autre le dimanche. Trintignant disait qu'il n'avait pas d'ambition de carrière, sauf de faire quelques bons films au milieu de tout ce qu'on lui proposait. On lui en a proposé beaucoup. Et puis à la fin de l'interview, je me souviens qu'il m'avait livré le secret de la fascination qu'il pouvait exercer, mais il l'avait mis dans la bouche d'un journaliste qui lui avait dit ça, qui lui avait dit « Quand j'avais 16 ans, vous étiez mon idole. Alors pourquoi vous ?» Parce que Delon était trop beau, parce que Belmondo était trop sportif, alors c'était vous.
Oh, les Français qui le découvrent au cinéma en 1956, dans Et Dieu créa la femme de Roger Vadim, il partage l'affiche avec Brigitte Bardot.
Partenaire de Brigitte Bardot, vous devenez ce jeune premier dont on parle beaucoup à l'époque.
Ça ne me faisait pas plaisir du tout, mais pas du tout, je vous assure, j'ai mis aucune complaisance là-dedans. Je vous assure qu'il n'y a eu jamais une photo de nous qui a été prise comme ça. Les photos qui ont paru étaient des photos du film, mais jamais, je veux dire, on s'est prêté à ce scandale, enfin, ou tout au moins à cette publicité-là, jamais, je vous le jure.
La presse a parlé beaucoup de Trintignant à ce moment-là.
Je ne méritais pas.
Pourquoi vous ne le méritiez pas?
Parce que j'étais pas bon dans le film.
Et alors pourquoi la presse a parlé de vous?
Je sais pas. Pour des mauvaises raisons, certainement.
Il avait même confié au micro de France Inter « Je ne suis pas un acteur brillant, Pierre ». On a longtemps vu Jean-Louis Trintignant comme le Paul Newman français. Est-ce que la comparaison vous paraît juste ?
Faudrait la nuancer, sinon qu'ils sont très très beaux tous les deux et que les yeux bleus de Paul Newman ont plus souvent souri. Mais c'est bouleversant, en tout cas, tout ce que la beauté du visage de Trintignant a pu exprimer sobrement. Il n'avait pas besoin d'en faire beaucoup pour interpréter des rôles de personnages qu'on déteste et qui étaient à l'opposé de lui, comme le petit juge, évidemment, dans Z. Il n'aimait pas, disait-il, les rôles d'épate. Jean-Luc Drouin, dans Le Monde, cite cette jolie phrase de Jean-Louis, « Être une page blanche, partir de rien, du silence, dès lors on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit pour être très écouté. Bernardo Bertolucci ne pouvait pas trouver plus fantastique visage, impénétrable et profond, beau et mystérieux pour son conformiste. »
Il y a deux façons de se comporter dans la société. C'est-à-dire, c'est la première, être conformiste, c'est la majorité des gens. Et la deuxième, être révolutionnaire, être contestataire, pour dire un mot à la mode. Et être conformiste, c'est-à-dire, c'est accepter d'entrer dans la société. Et pour entrer dans la société, il faut payer. Il faut payer de sa liberté, il faut payer de choses auxquelles on avait rêvé et renoncé à cela. Là, c'est un cas extrême, puisque payer, c'est tuer un autre homme. Je pense que sur ce plan-là, c'est un film très moderne et très politique, très engagé. Et je pense que tous les artistes doivent être déjà engagés, autrement, c'est pas la peine, ça n'a pas de sens.
L'engagement dont vous parliez, que vous évoquiez, Jack Lang tout à l'heure. Jean-Louis Trintignant, qui a aussi été courtisé par de grands cinéastes comme Fellini, Francis Ford Coppola ou Steven Spielberg, et qui est resté sourd à leurs propositions.
Ah ben, puis pas n'importe quel film. Hein. Il a décliné un rôle dans Apocalypse Now. Il a dit non à Joseph Losey pour The Servant. Il a dit non merci à Spielberg pour rejoindre le casting des Rencontres du Troisième Type. Et nenni à Federico Fellini pour le rejoindre sur le tournage de Casanova. Il a même dit aussi, il faut le rappeler, non à Sautet pour prendre le rôle qu'acceptera plus tard Sammy Frey dans César et Rosalie. Pourquoi irais-je tourner à l'étranger, disait-il, alors qu'on me propose plein de films en Europe? On pourrait rajouter que pendant de longues années, il partageait son temps entre le cinéma et la course automobile, lui qui était le neveu de Maurice Trintignant et qui était un très très bon pilote.
Jack Lang.
Non, tout ce qui est dit là est parfait et juste. non, j'ajouterais que sur un autre plan qu'on ne doit pas oublier, c'est que il a traversé des épreuves terribles. Sa maman, la libération, son père résistant et emprisonné, sa fille. Évidemment. Et je crois qu'il ne s'en est jamais réellement remis. Et cette souffrance était là, toujours en lui, et discrète et retenue. Mais néanmoins, des épreuves fortes et indélébiles.
Oui, car c'était un homme qui plaçait sa famille au cœur de sa vie, de son métier, écoutez-le.
Je pense que la chose importante pour un acteur, c'est sa nourriture intérieure. Et c'est pour ça que ma famille, ça fait partie de ma nourriture intérieure et j'en ai besoin, je la transporte avec moi.
Quand vous tournez à l'étranger,
j'emmène.
Vous laissez votre femme?
Non, j'emmène.
Et les enfants, vous savez?
Non, j'emmène aussi les enfants. C'est très important, c'est très important pour moi, c'est très important pour mon enfant aussi, c'est très important pour ma femme.
Nadine et Jean-Louis Trintignant ont perdu un bébé, une fille, Pauline, histoire tragique dont Nadine tirera un film bouleversant, Ça n'arrive qu'aux autres, avec Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni. 30 ans après cette mort tragique, en 2003, il perdra sa deuxième fille, Marie, dans les conditions que l'on sait. Marie avec laquelle il était remonté sur les planches de manière si lumineuse et si complice. Il aura un troisième enfant avec Nadine Trintignant, Vincent, qui a suivi la voie de ses parents. On pense, toutes nos pensées vont vers lui, vers sa famille. Marianne, sa femme, auprès de qui il s'est éteint. Et Samuel Benchetrit, bien sûr.
Et France 3 lui rendra hommage ce soir avec Un jour, un destin qui lui est consacré à 21h et en deuxième partie, suivi d'un film, Un homme et une femme de Claude Lelouch, parce que forcément ce Shabadabada restera éternellement lié à Jean-Louis Trintignant. Vous restez avec nous, Jack Lang, on va parler de la fête de la musique et de ses 40 ans qu'on célèbre mardi prochain dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard.
Bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Mathieu.
Mardi, Mathieu, oui, c'est mardi. Donc la fête de la musique.
Et pas n'importe laquelle, vous venez de le dire, la 40e, et on sait que vous en êtes bien sûr le père, Jack Lang, pour cet anniversaire. Un petit retour, voilà qui devrait vous rappeler quelques souvenirs.
La grande tradition des fêtes, on marquait toujours la naissance de l'été par d'immenses fêtes. Alors demain soir à 20h30, nous proposons aux Français qui le veulent bien de saluer la naissance de l'été. C'est le moyen aussi de bien montrer qu'au fond, en matière d'art et de culture, il n'y a pas d'hiérarchie. Et il ne faut pas que les amateurs aient des complexes par rapport aux professionnels. Et puis que toutes les musiques aient le même droit de citer. Le rock, le jazz, les variétés, la musique classique, la musique moderne. Ce qui ne veut pas dire naturellement qu'il ne va pas y avoir des efforts plus particuliers pour la recherche au plus haut niveau. Mais il faut aussi, dans un grand pays démocratique, chacun se sent à l'aise et sans complexe.
Vous êtes musicien ?
Je ne suis pas un bon musicien, alors je peux par conséquent dire à tous ceux qui pratiquent la musique, allez-y.
Vous avez lancé la fête de la musique en 1982, Jack Lang. Il faut dire qu'à l'époque, l'idée laissait perplexe. Il a fallu l'imposer.
C'est vrai, bon, c'est normal. Les idées un peu bizarres suscitent toujours la hire des pisse-vinaigres. Mais je l'ai connu tout au long et aujourd'hui encore. C'est un bon signe, d'ailleurs, quand quelque chose de nouveau est proposé. L'armée des sceptiques se lève. Quand on a fait plus tard la pyramide du Louvre, protestation, la construction de l'opéra, protestation. Et c'est ainsi dans la vie, et tant mieux, d'une certaine manière.
Mais vous aviez peur, parce que là on vous voit la veille de cette fête de la musique, hein, le 20 juin 1982, vous aviez peur du flop?
Ah, c'est vrai. Ça a été l'un des plus grands tracts de ma vie. Je me suis dit, on avait lancé l'idée 3 mois avant, je crois.
Ouais. On était d'une réunion assez chaotique.
C'était un petit remue-ménage, je ne dirais pas brainstorming. Un petit remue-ménage avec Maurice Fleuret, un grand personnage, qui était un ami proche, question du pavillon, Véronique Saint-Jour. Et non, il se fait que depuis l'élection de François Mitterrand et ma nomination au ministère de la Culture, nous avions beaucoup, beaucoup agi pour les artistes, pour les créateurs. La loi sur le prix unique du livre, la réforme du cinéma, la transformation du paysage musical. Et on s'est dit à un moment, mais on devrait aussi mettre dans le coup les gens eux-mêmes.
Ah oui, l'idée, alors, c'était de démocratiser la musique.
Oui, de demander aux gens d'être eux-mêmes acteurs.
Et de permettre...
De l'événement. Inventeurs, co-auteurs de l'événement. Et ce qui fait d'ailleurs que... il est devenu populaire parce que les gens se le sont appropriés. Mmh. C'est leur histoire, c'est leur patrimoine commun. C'est devenu comme un rituel.
Ouais. Mmh.
Comme un rituel, je ne veux pas dire républicain, mais comme un rituel qui, par ailleurs, c'est pour moi une satisfaction, je suis internationaliste pleinement,
bah oui,
a fait le tour de la planète. J'ai reçu hier un petit message des États-Unis. Ça se déroulera dans 100 villes américaines. La Statue de la Liberté, un concert sera donné, le Carnaval des animaux de Saint-Saëns qui sera recréé en lien avec la Statue de la Liberté ici à Paris, enfin, etc., etc.
Avant de faire le tour du monde, on va revenir en France parce que l'idée de démocratiser la musique, de permettre aux amateurs de sortir dans la rue, on est encore le 21 juin 1982, regardez, nous sommes à Vence dans les Alpes-Maritimes.
Vous voyez là, tous ceux-là sont des Vensois, ils sont venus à notre appel, ils ont répondu, et ils sont nombreux.
Et surtout des jeunes.
Oui, il y a des jeunes, là, comme vous voyez, il y a même des tout petits, puisqu'ils commencent à la maternelle déjà.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est des instruments d'Afrique.
Ah oui ? Comment ça marche ? Fais voir. Madame, de quoi s'agit-il là, comme instrument ?
Ben, je ne sais pas, on me l'a mis entre les mains, alors c'est très simple à manipuler, comme vous pouvez voir.
Est-ce que vous êtes d'accord sur l'organisation d'une journée pour la musique ?
Ah là là, c'est extra, quelle bonne idée !
Alors ça, c'était la première fête de la musique, on est dans les Alpes-Maritimes. C'est un peu le bazar, hein. On joue comme
c'est
ça dans tous les sens, mais
oui.
c'est un peu l'idée aussi.
C'est l'idée aussi, oui.
C'est revendiqué, ça.
Oui, mais c'est bizarre.
Les reprises ratées de téléphone, par exemple.
Pardon ?
Les reprises ratées de téléphone le soir de la fête de la musique, ça fait partie de son charme.
Ça fait partie de la vie, ça fait partie du charme, ça fait partie de... Et je dirais, cette année, c'est un caractère particulier. Après 2 ans et demi d'enfermement, ça a la vertu d'être un peu comme de grandes retrouvailles. Une nouvelle respiration. Vous verrez le bonheur très grand des gens de se retrouver et de coexister les uns avec les autres. Car un autre trait, et je suis pour rien, c'est l'événement qui s'est construit tout seul, c'est que l'esprit de tolérance l'emporte totalement. Il n'y a jamais eu aucune violence, sauf lorsque la police à Nantes a déployé des gaz lacrymogènes sur un concert techno il y a 3 ans, à la fin de la nuit, au bord de la Loire, des jeunes sont tombés dans l'eau. Et un d'entre eux, Steve, est mort parce qu'il ne savait pas nager. Mais autrement, c'est toujours respect, tolérance, bonheur d'être, de vivre un moment hors du temps. Sortir de soi-même, sortir de chez soi, c'est comme un rituel, je le répète.
Et pour les 40 ans de la fête de la musique, vous avez lancé un appel sur vos réseaux sociaux pour que chacun raconte son meilleur souvenir de la fête de la musique. On a voulu vous donner un coup de main.
Ou son pire souvenir.
Ou le pire, d'ailleurs, oui, dans cet à vous.
On demandera le pire.
On a voulu vous aider. Audrey Payas et Camille Schmitt sont allés poser la question aux Parisiens.
Il y avait toujours une fête de la musique en face de mon école et j'avais l'habitude d'y aller parce qu'on mangeait des crêpes avec mes parents et donc je trouvais ça sympa. Voilà, il y avait le concert des amis et tout.
J'avais fait la fête de la musique sur le Champ de Mars avec mes parents quand je devais avoir 6 ou 7 ans et j'avais vu Michel Polnareff, donc ça m'avait marqué parce que c'était un énorme concert. Il y avait David Guetta aussi, donc c'était la première fois que j'allais à un concert.
La fête de la musique, pour moi, c'est très évocateur de la fin des cours. Donc le 21 juin, on était libérés des examens, libérés de l'école et on adorait se retrouver, traîner dans les rues de Paris et vraiment sans jouer de musique et tout, d'aller chanter.
Il y a peut-être un peu plus de 10 ans et c'était la fête de la musique avait organisé un très grand concert et je me souviens notamment, il y avait Robbie Williams. C'était inoubliable.
Et vous, c'est quoi votre meilleur souvenir à vous, Jack Lang, de fête de la musique?
C'est demain.
Mardi, vous voulez dire?
Où, mardi, oui. Mardi, pardon. Oh ben je partagerai ma journée entre Villeurbanne, le maire qui fait un travail fantastique pour la jeunesse, a décidé, avec mon parrainage, de créer une route de 6 km de la musique, du centre de Villeurbanne au centre de Lyon, et de livrer cette route, ou cette rue, aux jeunes de la région. Et je suis très très heureux de me rendre sur place le matin. On va souffler les 40 bougies avec, au milieu des enfants et des jeunes. Puis je reviendrai le soir parce que à l'Institut du Monde Arabe, Didier Varro, qui organise une sorte de traversée dans Paris avec un char de la musique, faisant revivre ce que Jacques Higelin avait imaginé pour la première fête de la musique. Mmh. Il avait loué un camion qui s'est déployé, il a traversé Paris. Il a amené à lui beaucoup de musiciens. Et je suis très reconnaissant à Didier Varro de remettre en mouvement cette belle idée de la transhumance à travers la ville.
Mardi, pour la fête de la musique, la canicule sera normalement derrière nous. En attendant, des records de température sont attendus ce week-end.
Oui, il fait déjà chaud depuis quelques jours. Hein, ça, on en a parlé. 14 départements en vigilance rouge. Tout le littoral atlantique à partir de la Loire-Atlantique jusqu'à la frontière espagnole. 56 départements en vigilance orange. Et l'actu météo extrême, bah, les chaînes info, elles adorent.
On a cherché un peu de fraîcheur. On est venu ici au musée, regardez la température à l'intérieur. C'est pas 38 degrés, c'est 23 degrés avec la climatisation.
Vous voyez, on n'a pas d'eau aux genoux. Ça veut dire qu'ici, pour pratiquer du canoë, c'est particulièrement difficile.
Bon, forcément, aujourd'hui, la casquette, il faut à tout prix la porter dans la cour de récréation. Ça commence à taper, il fait déjà 33 degrés. Mais il y a quand même du monde, regardez ici, dans cette salle de classe.
Conséquence eh bien, de cette canicule, eh bien, la fan zone de la demi-finale a été annulée.
Et vous avez peut-être remarqué que vos collègues de travail sont un peu dévêtus ces derniers jours en short, en t-shirt. Camille Schmitt et Audrey Payas ont d'abord consulté Benoît Serre, qui représente les DRH. Est-ce qu'on a le droit de se relâcher un peu au boulot quand il fait chaud?
Le travail ne prévoit rien, en fait. Le code du travail, il limite seulement la liberté des gens à s'habiller comme ils le sentent aux questions de sécurité. On doit faire preuve d'assouplissement, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Selon le lieu, selon le type d'activité, selon si vous rencontrez ou pas des clients ou pas des clients, bon, il faut faire un peu attention. Donc, je ne sais pas si on peut traiter ça en question de short ou pas short. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut assouplir un peu les règles. Et d'ailleurs, quand vous observez, les règles qui s'assouplissent, ce n'est pas tellement sur le vêtement, en fait. C'est plutôt sur les temps de pause, les horaires de travail.
Alors, on a envoyé Louis Amar et Emo Touré à La Défense, le quartier d'affaires parisien, habituellement très costard-cravate. On est habillé comment aujourd'hui?
Est-ce que vous pourriez venir en short à votre travail?
C'est impossible, ça.
Non, c'est compliqué, c'est pas encore dans l'air du temps. Et si vous voyez un collègue en short, vous allez lui dire quelque chose?
Ah ben, je vais lui dire bravo.
Aujourd'hui, chemisette et bermuda pour aller au travail. Il faut oser, quoi.
Qu'est-ce qui se passerait si l'un de vos collègues venait en short?
Je pense qu'il serait pas accepté.
J'ai un pantalon dans mon sac parce que je me suis changé en fait juste avant d'aller au bureau parce que j'ai pas osé en fait y aller en short parce que ça fait pas sérieux.
Et j'ai retroussé les manches, vous avez vu? Trousser les manches, bah là ils sont pas retroussés habituellement.
Ça c'est la seule excentricité que vous êtes permis.
Excentricité parce que j'ai fini.
Est-ce qu'il y a des gens qui vous font des réflexions quand même au travail, des gens qui restent en pantalon et qui vous font des réflexions?
Absolument, absolument. Ça y est, t'es en vacances, José, t'es en tenue plage. J'ai dit non, je suis en tenue de canicule, je suis en tenue décontractée, mais respectable pour tout le monde.
Voilà, je vous laisse, je vais remettre mon short.
Ici, tout le monde est tiré à quatre épingles. Merci beaucoup, Jack Lang, d'être venu nous parler de la fête de la musique. Et vous avez un excellent souvenir de cette fête. En 10 secondes, Alain.
En 10 secondes, ma femme a dirigé un orchestre de chambre devant Saint-Sulpice et j'avais une frousse épouvantable qui est trop de bruit, qu'on n'entende pas, qu'il n'y ait personne, etc. Finalement, il y avait au moins 300 personnes qui écoutaient ça.
C'était un succès.
Comme si c'était bien.
Un succès des Duhamel, une fois de plus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, la fine équipe, Muriel Robin, Pierre Palmade, François Berléand.